alors, fais voir. Putain, et il dure que ça l'album. Oula, et c'est un petit peu faux ça. Ouais, un petit peu faux, hein. Bon alors, fais voir. Alors ça, c'est ma chanson que j'ai écrite pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui, et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non, ça reste à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Mais ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux, construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux, servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux, allez juste un petit effort. Aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas trop à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un autre. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben, c'est nous qu'on est évolué.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canut dans cette émission exceptionnelle qui s'appelle « Voter n'est pas agir, agir n'est pas voter ». On va faire un petit tour de table des personnes présentes, donc on va commencer par Delphine du Canut Info.
Bonsoir à tous et à toutes.
Laurent de Noise Pollution.
Bonsoir.
Tarzan du groupe Graines d'Anard.
Salut les amis.
Pinou du groupe Graines d'Anard aussi.
Coucou.
Avec sa patte inimitable à la technique, c'est Jean-Yves.
Bonsoir.
De la causerie.
Et Fab de la causerie également.
Voilà, on a fait le tour et on va démarrer cette émission autour, comme vous le savez, de cette notion de vote et de surtout pas vote. Alors, édito ?
Édito. Ce soir, nous ne ferons pas comme sur bien d'autres médias, de dénonciation des abstentionnistes, de leur soi-disant responsabilité sur la montée des populismes et des réactionnaires. Ceux-ci étant majoritairement arrivés au pouvoir avec le sacrement des urnes, donc grâce aux électeurs et aux électrices. Nous ne sommes pas là non plus ce soir pour faire la morale aux abstentionnistes, leur vendre les bienfaits du vote utile, le choix du moins pire au prétexte que le fascisme est à deux pas du pouvoir. Pourtant, qui expulse, qui précarise, qui exploite, qui chasse les pauvres, déjà aujourd'hui. Nous ne vous culpabiliserons pas non plus en parlant des soi-disant morts et mortes pour le droit de vote. Non, on ne fera pas. Nous garderons bien aussi de crier toutes et tous pourris. Nous tâcherons de laisser le populisme aux simplificateurs et simplificatrices qui tentent de faire croire qu'une fois le pouvoir entre leurs mains, tout changera et la mascarade prendra fin. Nous ne vanterons pas non plus la dictature prolétarienne, pas plus que le grand soir, celui-ci étant toujours récupéré par les autoritaires de tout poil et les assoiffés de pouvoir aussi de toute obédience. Bref, nous ne vanterons aucune position qui nécessite la prise de pouvoir, Car comme le disait Louise Michel, le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que nous sommes anarchistes. Et comme nous avons conscience que toutes et tous les abstentionnistes ne sont pas anarchistes, nous savons qu'il ne suffit pas d'être contre un système, contre le système en tout cas représentatif actuel, pour dépasser l'imaginaire politique actuel. Donc pendant cette émission, cette heure d'émission, cette courte heure d'émission, nous tâcherons donc de dépasser cet imaginaire actuel en vous apportant matière à réflexion par le biais de positions et de positionnements anarchistes. Des billes pour s'interroger tant sur le vote, qu'il soit choisi ou par dépit, que sur l'abstention ainsi que sur les textes illusoires qui nous garantiraient on ne sait quel droit. Nous causerons aussi mandat révocable, syndicalisme et certainement de tant d'autres choses. Donc ces arguments aussi pour nous rappeler que nos vies ne se jouent pas tous les 5 ans dans un isoloir, que la lutte contre la bourgeoisie, les patrons, les actionnaires, les possédants, celles et ceux qui jouent de nos vies pour alourdir leur poche et leur compte en banque, ne doit pas se faire par la délégation au profit d'un sauveur ou d'une sauveuse suprême. Nous devons prendre le contrôle de nos vies, nous devons reprendre les outils de production, de la machine à la terre, pour les collectiviser, trouver les moyens d'assurer à toutes et à tous l'accès à la santé et aux besoins de base. Le tout en dépassant évidemment et en effaçant les frontières qui ne sont là que pour asseoir les nations, celles qui veulent nous faire croire que l'autre, celui ou celle qui est juste de l'autre côté de la frontière, serait un ou une ennemie. Ces mêmes nations qui font que tant d'entre nous sont déjà morts et continueront de crever aux frais de l'État. L'anarchie n'étant pas, selon moi, selon nous, j'ose le pluriel, qu'un mode de gestion de nos vies, tous ces changements ne peuvent se faire qu'en refusant toute position oppressive, autrement connue sous racisme, sexisme, réassignation et toute autre hiérarchisation des humains et des humaines, ainsi que le refus de toute élite éclairée. Ni Dieu ni maître, ni État ni patron, bah vive l'anarchie!
Ben, merci, j'arrive.
ça pose bien ouais. L'émission. Ouais. Mais quand même, comme on a des gens que personne ne connaît sur Radio Canu pour l'instant, mais le groupe Graines d'Anard, mais qui c'est donc, est-ce que c'est?
Alors, le groupe Graines d'Anard, c'est un groupe de la Fédération anarchiste, donc un groupe de Lyon. Et donc, il va se situer plus dans la tendance, on va dire, éducationniste, c'est-à-dire qu'on fait des soirées sur différentes thématiques, et à chaque fois, on essaie de diffuser des idées anarchistes, de semer des graines. Et donc, peut-être qu'elles germeront, peut-être pas, bon, on verra bien. Hein. Et du coup, bah, on a aussi un site grainesdanard.org que je vous invite à aller voir. Voilà.
C'est comme ça qu'on vous contacte.
Voilà.
C'est bien.
Il y a tout dessus, le contact, il y a tout.
Tout est dit. Et justement, Laurent.
Alors, c'est moi qui vais commencer, après cet édito et cette présentation, à vous parler du premier sujet de cette émission. Je vais vous parler du vote utile, ou comme on l'a intitulé, de l'inutilité du vote utile. Alors, j'ai d'abord repris la phrase qui explique ce que c'est que le vote utile, au cas où vous ayez raté un peu des épisodes, issu de Wikipédia. Donc, voilà, un truc qui fait un peu référence, mais qui est libre et presque anarchiste. Je cite, « Le vote utile est, dans les systèmes politiques bipartisans, en raison du système de vote, un appel à une partie des électeurs à voter pour celui des deux partis dominants dont ils se sentent le plus proches, plutôt que pour un parti représentant mieux leur sensibilité, mais estimé peu probable de parvenir au pouvoir, et ce principalement pour empêcher le parti dominant adverse de triompher. Plus généralement, le vote utile est un vote conditionné par les prévisions d'un résultat donné. Cela revient par exemple à estimer l'impact des deux réponses à un référendum et à envisager la moins mauvaise. Le vote utile peut alors intentionnellement s'inscrire dans ce qui peut être appelé une logique du moins mauvais, contrairement à celle du meilleur. Cette notion est encore plus explicite aux États-Unis, puisqu'on utilise le mot « tactical voting », un vote tactique qui serait bien plus intelligent et intelligible que le vote utile. Bon, voilà pour la phrase de la petite introduction de Wikipédia. Qu'est-ce que se cache-t-il derrière ce vote utile? Alors, si on ne vote pas pour deux ou trois partis dominants, c'est-à-dire pour un des candidats ou partis ayant une chance importante de gagner l'élection, le vote serait donc inutile. La démocratie est souvent désignée comme un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Là, on voit bien que la démocratie représentative est un système politique dans lequel le peuple, finalement, n'a pas le pouvoir, mais juste une micro-particule de pouvoir. Peut-être même s'agit-il juste d'une illusion de pouvoir. Et la notion de vote utile va encore plus loin dans l'affirmation que le peuple ne doit pas choisir quelqu'un qui défendrait ses idées, puisqu'on demande aux électeurs ou aux électrices de voter pas pour les gens qui défendent leurs idées, mais pour les bonnes personnes, entendu celles que les dominants alors qui sont représentés par les riches, les patrons, les personnes issues de certaines grandes écoles, l'ENA, des choses comme ça, les journalistes bien évidemment aussi, auront choisi pour lui les candidats qu'on qualifie donc de « utiles ». Or, ces candidats sont tous issus d'une minorité intellectuelle et politique que l'on nomme classe dirigeante et qui ne représente jamais la majorité de l'électorat, ni le moindre parcelle d'ailleurs finalement de cet électorat. La notion de vote utile semble donc inévitable pour convaincre les votants à choisir quelqu'un qui ne leur ressemble pas et qui ne porte pas leurs idées, mais qui est la bonne personne. Alors il se cache aussi derrière cette notion de vote utile une espèce de chantage. À chaque fois, on vous dit c'est mal de voter pour la mauvaise personne. Si vous ne votez pas utile, ce sera de votre faute si les pires arrivent au pouvoir. Alors bien évidemment, pour les gens de gauche, les pires, c'est l'extrême droite. Mais on a vu apparaître, et c'est notamment dans cette élection présidentielle, le vote utile à droite. Hein, on vous dit, attention, si vous votez pas pour la bonne personne, ben vous aurez la gauche au pouvoir. Donc le vote utile, qui était très mal vécu, il faut quand même le dire, par les sociodémocrates, les SOSDEM, et ben maintenant commence à être aussi mal vécu par la droite traditionnelle. Chacun son tour. Alors, en fait, voter utile, c'est surtout voter comme les instituts de sondage le demandent. En effet, ce sont ces instituts de sondage qui déterminent les soi-disant partis dominants ou les candidats qui ont une chance plus importante que les autres de l'emporter. Il faudrait donc suivre leurs analyses et surtout leur obéir. Voter utile, c'est donc obéir à ces entreprises privées qui réalisent des sondages qui sont souvent, voire toujours faux. Ils sont d'ailleurs faux volontairement, on peut quand même l'annoncer, le dire, de par les méthodes employées, alors des personnes interrogées en trop petite quantité, des panels non représentatifs, voire aujourd'hui des systèmes techniques excluant une partie de la population, c'est le cas de l'essentiel des sondages qui sont aujourd'hui réalisés sur Internet, ce qui est inaccessible pour une partie de la population. La question pourrait d'ailleurs aussi se poser du pourquoi ces instituts de sondage sortent des sondages faux, alors que ça fait des dizaines d'années que des chercheurs en sociologie sont capables, eux, de faire des études précises de la, population. Je vous laisserai chercher l'erreur. Une erreur bien volontaire, bien évidemment, dans les buts évidents de manipulation. Alors, il se cache aussi derrière cette notion de vote utile et de la propagande qui y est associée, un véritable mépris du peuple. Ce peuple qui n'aurait ni la culture ni les connaissances nécessaires au bon choix et que l'on guide en lui disant quasiment pour qui voter, en tout cas, surtout pour qui ne pas voter, en lui expliquant bien les candidats dits utiles et les candidats dits inutiles. Alors ce mépris et cette infantilisation, c'est une longue histoire, hein, puisque dès la Révolution française, le droit de vote n'était pas accordé à tout le peuple, mais seulement à ceux qui le méritaient, c'est-à-dire pas aux pauvres, pas aux ouvriers, pas aux femmes, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, c'est cet oubli historique qui permet souvent d'entendre des gens prononcer cette fameuse phrase « mais il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote ». Alors, certes, des révolutionnaires sont morts pour la révolution, pour différentes révolutions, mais quand celle-ci triomphera ou triompheront, si on les prend en pluriel, ben en général, ils n'auront pas le droit à ce fameux droit de vote, puisque ces droits de vote, notamment au début de la Révolution française, étaient réservés, je cite, « aux actionnaires de la grande société ou aux citoyens actifs ». Ces gens qui étaient qualifiés d'actionnaires de la grande société ou citoyens actifs, c'était ceux qui étaient capables de payer les impôts. Donc, à l'époque, très peu de personnes payaient les impôts. Voilà. Bon, bref, vous avez compris, ils ne sont pas morts, ces révolutionnaires, pour obtenir un droit de vote, qu'ils n'obtiendront pas, de toute façon, mais pour la liberté, la justice et d'autres raisons. D'ailleurs, au passage, je rappellerai que ce n'est pas parce que des gens sont morts pour défendre une idée que celle-ci est respectable. S'il y a eu beaucoup de nazis qui sont morts pour défendre leurs idées, on va être emmerdés sinon. Hein. Alors, conséquence du vote utile. La première conséquence, c'est que de moins en moins d'électeurs votent pour un candidat porteur de leur idée, mais ils votent pour celui qu'ils considèrent comme le moins pire. C'était la définition qu'on retrouvait dans Wikipédia. Ce qui fait qu'élection après élection, un dégoût du système monte, souvent malheureusement sans réelle réflexion de remise en cause de celui-ci. Nous, on pourrait rêver que ces déçus du système deviennent des anarchistes, hein, ça serait notre rêve. Malheureusement, au final, ce dégoût se transforme souvent en vote pour le Front National. Pourquoi ? Parce que le Front National est vu, totalement à tort, comme un parti hors système. Hein. Donc finalement, ce vote utile, indirectement, fait monter l'extrême droite. Hein. C'est une vraie constatation. Ça ne concerne pas tous les électeurs, mais ça concerne une partie des électeurs. La deuxième conséquence, c'est que cela légitime le déni de démocratie qu'est la démocratie représentative. Ainsi, dans cette belle élection de 2017 pour la présidence de la République, soi-disant pour faire barrage à l'extrême droite, on a beaucoup, beaucoup entendu qu'il fallait voter Macron. Bon, si celui l'emporte, celles et ceux qui ont voté pour lui, sous-entendu aussi pour son programme et ses idées, ils seront donc finalement responsables de la politique qu'il va mener. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord avec ses idées? Bah, c'est trop tard, vous avez voté pour lui. Hein? Vous allez être au chômage à cause de lui? Bah, c'est bien fait pour votre gueule. Bah, voilà, on peut imaginer plein de situations, bien évidemment. Enfin, dernière conséquence, plutôt drôle, sur ce vote utile, c'est que même pour les tenants de la démocratie représentative, c'est voter contre leur propre système. Au final, ils avalisent l'idée et le principe qu'il ne peut y avoir que deux partis ou trois partis dominants dont sont issus les idées principales du monde politique. Or, si on regarde sur ces 30 dernières années, les principales nouvelles idées politiques, elles sont issues des partis qui sont situés aux extrêmes. Alors, le racisme s'est beaucoup redéveloppé en venant de l'extrême droite, c'est un truc négatif, et de l'extrême gauche, et notamment de l'écologie politique, est venu plein d'idées positives. Aujourd'hui, on a quelques idées politiques qui sont passées chez le Parti Socialiste. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a existé des petits partis, notamment un petit parti qui s'appelait Les Verts à l'époque, qui n'avait aucune chance de gagner aucune élection, mais qui a pu peser. Alors, voilà, c'est quand même bizarre que même les partisans de la démocratie représentative valident cette idée de vote utile qui détruit l'idée même de leur système, que nous ne défendrons pas ici, mais voilà, on a l'impression qu'ils sont un peu suicidaires, ces gens qui défendent la démocratie représentative. Bon, je vais finir en te posant deux questions. Enfin, une question et une petite conclusion. À qui profite le crime? À qui profite ce vote utile? Bon, j'ai cherché des heures et des heures, j'ai fait 5 thèses. Le vote utile est utile simplement au vainqueur de l'élection, finalement. C'est-à-dire, grosso modo, à l'oligarchie politico-intellectuelle représentée par les énarques, les patrons, les anciens élèves de Sciences Po qui font de la politique. Bref, ceux et celles issus de cette intelligentsia républicaine, c'est-à-dire jamais issus du peuple, mais d'une classe très particulière, ultra-minoritaire de la population. Bon, en guise de conclusion, je dirais que la démocratie représentative est un leurre, ça vous le savez tous et toutes autour de cette table, j'espère que vous le savez aussi derrière le micro, en tout cas on va essayer de vous convaincre. Et le vote ultime, c'est une sorte d'étape ultime qu'impose ce système, transformant tout ça en une espèce de juste mascarade, où à la fin, le candidat qui est élu est tout sauf représentatif. Donc finalement, voter utile, dans le sens utile pour le peuple, c'est peut-être refuser tout simplement de participer à la démocratie représentative.
Voilà, voilà qui est dit.
C'était mon texte. Ça vous a plu, ça?
C'était beau.
Merci.
Non, mais ça permet de rappeler quand même une chose, c'est que les classes dominantes au pouvoir, comme on aime le dire dans les médias, n'existent que parce qu'on les légitime. C'est intéressant de se rappeler ça. Mais on peut peut-être voir d'autres façons de voir le monde avec Tarzan.
Et oui, donc je vais vous parler du système dit représentatif et un peu une critique de ce système-là. Alors d'abord, je vais faire comme Laurent, sortir une petite citation de Wikipédia. Donc on peut aussi retrouver sur le site latoupie.org, qui est un très bon site pour trouver plein de définitions de termes politiques. Alors qu'est-ce qu'un système, qu'est-ce qu'une démocratie représentative? Alors c'est un système politique dans lequel on reconnaît à une assemblée restreinte le droit de représenter un peuple. L'assemblée est constituée de représentants qui sont élus et qui incarnent la volonté générale. Ces représentants ont des mandats représentatifs, c'est-à-dire libres et non révocables. Alors très souvent, lorsqu'on entend des critiques des élections présidentielles ou d'autres types d'élections, on peut entendre que oui, en effet, ce sont des politiciens qui sont corrompus, véreux, qui ne tiennent pas leurs promesses, qui représentent la classe bourgeoise. Alors certes, mais quand même, ça ne serait pas le cas, ça ne changera rien au problème. C'est-à-dire que le problème, c'est la démocratie représentative. Donc on est relégué à un rôle de spectateur. On choisit la pièce de théâtre tous les 5 ans, sans y participer. C'est toujours la même rengaine. Alors je ne prône pas la démocratie participative, où souvent les associations jouent le rôle d'interlocuteur avec les autorités publiques, et où ce sont les élus qui ont le dernier mot. Non, moi je parle d'organiser nous-mêmes la société. Alors il n'y a pas de solution clé en main, mais tout peut et doit se discuter, s'affirmer et s'affiner ensemble. À nous de trouver les meilleures formes que cela peut prendre. Alors, personnellement, moi je suis sensible au fédéralisme libertaire, c'est-à-dire un fonctionnement qui va du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas. Donc le fédéralisme libertaire, il ne va pas sans autogestion, qui est en gros la prise en main concrète et quotidienne par les individus, et aussi les collectivités d'individus qui s'associent librement de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Mais dans ce système où il n'y aura ni économie de marché, ni planification autoritaire, c'est la population qui décide et valide les grandes orientations lors d'assemblées de fédérations, de réunions de communes ou de régions. Alors bien sûr, il est impossible que tout le monde s'occupe de tout, et c'est pourquoi des individus sont mandatés pour coordonner la mise en application des politiques, des projets, d'entretenir les relations entre les fédérations, voilà, faire en sorte que tout ce système fédéraliste puisse marcher. Mais donc, si les mandatés prennent des initiatives, ils le font bien sûr dans le strict cadre de leur mandat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel à proprement parler. Ils ne disposent pas de moyens coercitifs pour imposer leurs décisions et peuvent être évoqués à tout moment s'ils ne respectent pas leurs obligations. Donc c'est ce qu'on appelle un mandat impératif. Donc un mandat impératif, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui est délégué à une personne ou une organisation afin de mener une action prédéfinie selon des modalités précises auxquelles le mandaté ne peut pas déroger. Mais ce mandat, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'actuellement, il est interdit dans la Constitution française. C'est-à-dire que vous pouvez le retrouver, c'est l'article 27 de la Constitution de 1958. Et oui, c'est un mandat qui est interdit, donc j'imagine qu'il devait faire peur un petit peu aux personnes qui ont écrit cette Constitution. Et ce mandat impératif, il s'oppose au mandat représentatif, qui est utilisé lors des démocraties représentatives. Donc on peut voir un petit peu le problème de ces démocraties représentatives. Au final, on laisse libre cours aux élus pour faire, on va dire, ce qu'ils veulent, sans possibilité de les révoquer, sans possibilité de leur donner une mission stricte, bornée. Donc au final, on se remet totalement à leur décision, et c'est... C'est un problème dans cette démocratie où, au final, même si on avait la personne la plus, pure, avec les meilleures intentions, les meilleures idées, avec un casier vierge, une personne de la classe des prolétaires qui serait parfaite, dans tous les cas, on resterait spectateur, on n'organiserait en rien notre système, notre société. Et c'est quelque chose que, justement, que je combats, je pense qu'il faut combattre, qu'une société, on peut l'organiser nous-mêmes, nous sommes en rien incapables dans la gestion de notre vie de tous les jours, mais voilà, il faut passer par des outils qui suppriment ce pouvoir qu'on combat tous les jours, mais c'est quelque chose qui peut être combattu en organisant bien la manière dont on gère la société.
Oui, pardon.
Vas-y. Non, vas-y.
Oui, et puis c'est déjà, oui, effectivement, c'est déjà sur, c'est partir des besoins des gens, en fait, que les gens expriment, les gens se regroupent pour regrouper leurs besoins, etc. Oui. Et qu'ensuite, ça part de là pour s'organiser.
Bah, c'est ça.
Et c'est pas un politicard qui on donne un pouvoir de faire à peu près ce qu'il veut. Il pourra toujours dire que c'est dans notre bien, pour notre bien, sauf qu'il sera rarement partie de nos besoins, en fait.
Il faudrait déjà qu'ils connaissent les besoins. Là.
ouais. Entre autres, mais justement, personne ne peut connaître les besoins de tous. Déjà, par définition, c'est quelque chose qui est impossible. Je veux dire, comment demander à une personne de connaître les besoins de tous ? Enfin, c'est pour ça que, justement, dans le fédéralisme libertaire, il peut y avoir d'autres formes, une solution, c'est à tous de les trouver. Mais que c'est des solutions qui passent du bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, à un périmètre plus réduit, qui trouvons nous-mêmes les solutions dont nous avons besoin et si nous sommes les mieux à même, tout en gardant une discussion avec tous, hein, je veux dire, un petit groupe peut se tromper, ou même on peut tous se construire mutuellement, mais c'est pas une personne qui va proposer un programme sans être tenu de le respecter, parce que c'est un chèque en blanc qu'on lui fait, qui doit être élu et gérer nos vies.
Et d'ailleurs, dans la démocratie représentative, en tout cas dans la version française, on attend toujours l'élu, la personne qui va guider. Il y a plein d'exemples, hein, même en 48, quand Napoléon Bonaparte va être élu, alors que personne ne pensait qu'il serait élu. C'était ça, on lui faisait confiance, il apportait des idées, il avait même des idées de gauche, et on attend toujours ça en permanence. Et du coup, on se repose sur des gens qu'on a envie, quelqu'un d'un guide, en fait. Et,
c'est
incohérent avec la notion de démocratie. Du coup.
Sur les élections, c'est pas la phrase qui dit « c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple », voilà. Chose comme ça. Donc voilà,
c'est pour ça que ça fonctionne pas.
Et, oui. Ouais.
Et alors, pour dire sur la représentativité, c'est intéressant parce que quand on regarde les contenus sociaux, des classes sociales représentées à l'Assemblée nationale, hormis l'exemple de 81, il y a toujours eu que des bourgeois. Il y a eu, dans des périodes révolutionnaires, un petit peu d'autres personnes qui sont arrivées et issus des classes un peu moins bourgeoises, et en 81 typiquement des profs sont arrivés à l'Assemblée nationale parce que dans les militants socialistes il y avait beaucoup de profs. Du coup, on a vu des mecs qui ressemblaient pas à des politiques arriver en 81 avec des barbes, enfin ils avaient des looks de profs de l'époque, quoi. Mais c'est à part cet exemple là l'Assemblée est jamais représentative, même sur le truc le plus important qui différencie, qui classe un peu l'être humain, c'est-à-dire homme-femme. Je ne veux pas rentrer dans les transgenres, tout ça, dans toutes les petites d'autres personnes, mais rien que sur la séparation homme-femme, l'Assemblée, elle a jamais, jamais été représentative. C'est totalement illogique, alors que c'est un truc fondamental. Quand on va dans la rue, on prend une rue complète, si on mesure, il y a toujours la moitié d'hommes, enfin, il y a toujours un peu plus de femmes que d'hommes, pour des raisons effectivement statistiques, hein. Mais et ça n'existe pas à l'Assemblée, ça veut dire que même sur un truc aussi banal que le sexe officiel, on va dire, ils sont jamais arrivés, ils ont jamais voulu être représentatifs.
Alors, en même temps, c'est un peu compliqué d'être représentatif, d'être ouvrier, de travailler à plein temps et en même temps d'être un professionnel de la politique.
Ouais. Et alors, du coup, l'incohérence du système, c'est que en démocratie représentative aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut être professionnel. Et ça, c'est incohérent avec la démocratie telle que c'était perçue par les Athéniens. On va pas défendre la démocratie athénienne parce que c'était horrible, ils avaient des esclaves et tout ça. Mais dans l'idée, c'est qu'effectivement, c'était pas des professionnels. On ne devait jamais être professionnel, on était élu du peuple et après on faisait notre mandat. Alors il n'était pas malheureusement toujours impératif, mais après on s'arrêtait, on retournait bosser. Et depuis un certain nombre d'années, voire très longtemps, notamment en France, ce sont des professionnels. Et à partir du moment où on a des professionnels, ils ne représentent plus que ce qu'ils ont appris à l'école et la classe sociale dont ils sont issus, qui est la même, et ça ne marche pas.
Moi, je vais quand même placer ma blague, c'est que des profs, on en connaît un, Jean-Marc Ayrault, et je vais te donner un deuxième truc, c'est la notion de consensus dont on parle assez peu, et qui pour moi est très important en anarchie, comme on dit. Pour ceux qui connaissent pas derrière, voilà, le consensus, c'est juste l'idée qu'en fait on peut trouver une position médiane qui convienne au plus grand nombre, voire à tous, parce que l'idée du consensus, c'est que ça convienne à tous. Alors c'est plus long parce que ça demande de discuter, c'est plus problématique parce que ça demande de s'intéresser aux choses, parce que du coup, ben sinon on peut pas se dire, ben moi j'ai pas d'avis, parce que il faut avoir un avis. Et quand on n'a pas d'avis, on peut le dire, mais on se retire du coup d'une discussion, c'est tout simplement ça. Mais le consensus, c'est une notion quand même qui est extrêmement importante et qui du coup réduit cette idée de l'homme providentiel ou de la femme providentielle, parce qu'on part du principe que ben, il faut d'abord trouver entre nous quelque chose qui convienne à tous et à toutes. Voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler.
Non mais c'est ça, mais en plus dans la démocratie représentative, on met en avant quand même l'efficacité. Et le problème, c'est qu'à vouloir mettre en avant absolument une efficacité, à prendre des décisions les plus rapidement possible, bah forcément, il y a une négation de la vie de tous, quoi. Et le consensus, ça peut se faire que justement dans le travail, et ça sera jamais aussi rapide qu'une décision prise par peu de personnes qui sont élues.
Mais du coup, tu pointes un truc important, c'est que la démocratie représentative, elle est totalement efficace et inévitable dans un système capitaliste où on a besoin d'être rapide. Mmh. Et qu'à partir du moment où on veut faire une autre type de système, on n'est plus capitaliste, parce que le capitaliste, il ne peut pas attendre 3 ans pour des gens discutent et trouvent un consensus, quoi. Et donc, en fait, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais effectivement, ils sont forcément liés. Et c'est un des systèmes qui va le mieux avec le capitalisme. La dictature, les systèmes autoritaires fonctionnent aussi très bien avec le capitalisme, hein, y a pas de souci. Mais dans les systèmes démocratiques, c'est le seul qui peut fonctionner parce que il est rapide, puisque finalement le peuple il dit rien.
Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, sinon je vous propose une petite pause musicale.
Très bien.
Et ben voilà, on se retrouve tout de suite. Hein. De retour, en tout cas on est de retour en direct dans cette émission spéciale.
Et on a écouté La Fraction.
C'était ça, j'allais te le demander, oui. Calme-toi, respire.
Eddie was an anarchist, et c'est extrait de l'album qui s'appelle... J'ai oublié aussi.
La vie rêvée.
La vie rêvée.
C'est ça. Et donc toujours dans cette émission spéciale de 20h à 21h avec quelques anarchistes de Radio Canu et du groupe Graines d'Anard de la Fédération Anarchiste. Là, c'est Fab. Tu vas nous parler de textes qui ne nous protègent pas vraiment, tout ça.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vais vous parler du texte sacré de notre République. Je vais vous parler de la Constitution. Oui, la Constitution, ce texte sacré dont on vous rabat les oreilles en permanence, mais que personne ne connaît. Parce qu'en réalité... C'est ça le problème. Vous savez, à chaque élection présidentielle, vous avez toujours 1, 2, 3, 12 candidats qui vous proposent la 6e, 7e, 8e, 52e République. Ça dépend un petit peu de d'où ils mettent le curseur. Et on se rend compte en fait que ben, tout ça c'est un peu du flan et du vent parce qu'ils nous disent oui dans la Constitution on va écrire des trucs vachement bien qui vont protéger les peuples. Hein. Alors vous savez la Constitution de 58 du grand général de Gaulle, ce grand démocrate devant l'éternel qui a fait passer sa Constitution avec un coup d'État, est en fait remplie de plein de mots. Alors faut les lire parce que du coup il y a des trucs intéressants dedans. Par exemple vous apprendrez qu'aujourd'hui déjà normalement la Constitution vous garantit à tous d'avoir un logement décent. Vous êtes content de l'apprendre, hein ?
C'est une bonne nouvelle.
Et que la Constitution vous garantit à tous et à toutes d'avoir un emploi à hauteur de vos qualifications et rémunéré correctement. Oui, c'est écrit dans la Constitution française. Donc vous serez très content d'apprendre aussi que dans la Constitution française, il est écrit que la probité de vos représentants est la première des vertus. Hein, on le sent bien quand même. Voilà. Et donc ça, c'est toute la notion de la Ve République. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais sur le mandat impératif. Enfin, je ne sais plus lequel de vous deux en a parlé, c'est toi. Oui, alors les gens ne voient pas, donc Tarzan. Et donc du coup, effectivement, dans la Constitution française, on voit bien qu'on a un petit peu cadré les choses. D'abord, on a rappelé que les forces de police, c'est le bien, que l'armée, c'est ce qui vous protège, et bon, c'était quand même un général, hein, de Gaulle, faut oublier, et qu'accessoirement, quand même, le tout pouvoir revient aux mains du président s'il y a besoin. Hein, on a mis une petite clause pour dire, en cas de pépin, un seul homme pour décider pour 64 millions d'habitants, c'est bien. Et donc, évidemment, on a enlevé le mandat impératif, parce que la notion de mandat impératif, c'est qu'il est révocable, et donc on ne veut pas pour que le président ou les élus soient révoqués. Donc déjà, voilà. Alors on vous dit, mais si, on peut destituer le président. Bon, je vous invite à lire comment on peut destituer un président. Et donc, ce grand texte, qui ne nous sert pas à grand-chose, parce qu'il est un socle que personne ne respecte aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque élection, on nous fait le coup de nous dire, et si on en faisait un nouveau ? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un chiffon à con. C'est-à-dire, c'est, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un petit chiffon qu'on agite pour faire croire aux gens qu'ils vont avoir du pouvoir sur cette idée-là. Parce que, soyons clairs, aucune des constitutions françaises n'a été, et d'ailleurs mondiale, n'a été écrite par les peuples. Vous pouvez chercher, non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Toutes les constitutions sont issues de petits groupes de gens qui écrivent un texte.
Même pas au Venezuela ?
Non, là, je ne rentrerai pas dans cette polémique-là. Mais même pas. Et en fait, c'est pas compliqué, c'est que, prenons l'exemple, la Constitution américaine, en réalité, vous savez, c'est les fameux pères fondateurs. Donc c'est en gros une dizaine de gars qui se sont mis autour d'une table et qui ont écrit un texte, qui ont dit « Ah, il est bien celui-là, hein, on va l'appliquer pour tout le monde ». En France, on se rend compte que les constitutions, elles vont au gré des puissances, en fait. Parce qu'au final, la dernière sort de celui qui a fait le dernier coup d'État, quoi. Et quand on regardait les constitutions françaises, généralement, elles sont après des coups d'État ou des retours de la monarchie, vous voyez, donc c'est toujours un petit peu le même truc. Donc, en fait, donner l'illusion aux gens que si on votait pour une Xème République, là, on appellerait une grande constituante, c'est le grand truc qu'on dit en général, on va appeler une constituante, vous savez, c'est le machin, c'est marrant. Et on fait croire aux gens, par exemple, que lors de la Révolution française, il y aurait eu des cahiers de doléances qui auraient servi à faire la première constitution. C'est pas vrai. Historiquement, c'est faux. Les cahiers de doléances, ils ont servi à faire la première Assemblée nationale, c'est-à-dire c'était les premières discussions dans l'Assemblée nationale. La Constitution, elle était écrite avant les cahiers de doléances. Elle était déjà prête, en fait. Donc, donner l'illusion, encore une fois, qu'on va donner du pouvoir par la Constituante et la Constitution, je le redis, c'est un chiffon à con, donc évitons de se laisser avoir par un énième petite agitation de chiffon rouge pour nous dire « Ah, fonçons par là-bas ». Voilà, mais je voulais rappeler un petit peu l'histoire du texte sacré de la République, je le trouve marrant.
Surtout que cette année, ils sont plusieurs quand même à parler d'une sixième...
Ah oui, j'ai fait les comptes, ils sont six.
Ah bah
six pour une sixième.
Ah, le compte est bon, le compte est bon.
Alors, tous, pas tous pareils. Hein.
Non,
il y a ceux qui veulent amender, il y a ceux qui veulent refaire, il y a ceux qui veulent faire une grande constituante avec 1000 personnes sur 64 millions. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu le même truc. Et on retombe sur le représentatif. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas les peuples qui vont, le peuple qui va avoir le pouvoir. C'est une connerie. On va encore nous demander d'élire des représentants qui vont réfléchir pour nous pour voir si on est bon. Quoi.
Ou les tirs au sort.
Ou les tirs au sort, ce qui revient un peu au même, en fait. Donc, voilà. Et du coup, parce qu'il veut pas, personne veut enchaîner pour le pauvre Pinou qui est là avec son stylo. J'en ai besoin.
Pardon, sur le tirage au sort, par exemple, qu'on entend souvent dans les nouvelles constitutions, moi je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait proposer au niveau de l'anarchisme ou l'anarchisme qui est basé quand même sur le rationalisme. Et le tirage au sort, du coup, on s'en remet au hasard. Donc déjà, de base, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du rationalisme. Quoi.
Sauf que c'est une révolution pour la démocratie représentative, le tirage au sort. Parce que du coup, on tombe sur n'importe qui. On tombe pas sur des politiciens professionnels. Donc quand ils parlent du tirage au sort, pour eux, c'est déjà... Ça fait déjà mal, pour eux, hein, si tu te rends pas compte. Quoi. Hein. Donc voilà. Après, sur le tirage au sort, c'est l'idée, d'après eux, qu'on peut pas fonctionner du bas vers le haut. et qu'il faut tirer au hasard. Et alors, après, rationnellement, ça justifie quand même sur un côté, c'est que si tu prends suffisamment, un nombre suffisamment important de personnes, ils deviennent représentatifs. Les sociologues fonctionnent comme ça. Et c'est un fonctionnement scientifique, rationnel, tout ouais, ce qu'on veut.
Statistiques, du coup.
Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut quand même dans une vraie démocratie, hein, par contre. Hein. Mais voilà, il faut voir quel est l'intérêt. Mais moi, je trouve que oser parler de tirage au sort pour des gens qui défendent la démocratie représentative, ça doit être quand même difficile. Les pauvres,
il faut les plaindre un petit peu. Ouais, mais j'ai remarqué, à moins que je me trompe, c'est pas trop des gens qui sont susceptibles d'accéder aux places du pouvoir qui en parlent. C'est
oui,
enfin, plus des gens comme Chouard ou choses comme ça, quoi,
qui appellent à voter pour l'extrême droite, donc on va les oublier.
Non, mais alors pour le coup, il y a quand même des études sur le tirage au sort. Est-ce que ça change? Moi, j'avais vu il y a très longtemps, juste pour faire un petit aparté, sur la peine de mort. Quand on dit un homme providentiel, Mitterrand, il supprime la peine de mort contre l'avis de la population. Oui. Et il y a des sociologues qui ont fait une étude en prenant des gens au hasard. Est-ce que ces gens, ils auraient voté aussi contre la peine de mort? Et en fait, l'étude montre que oui, parce que ils auraient. Alors, ces gens qui sont tirés au sort, suffisamment nombreux, issus donc du coup, il y a un peu de tout, et donc majoritairement, ils sont pour la peine de mort à l'époque, confrontés aux assauts qui défendent la peine de mort et aux assauts qui sont contre la peine de mort. À la fin, ils font comme Mitterrand, ils sont contre la peine de mort. Donc voilà, c'est pas si négatif que ça. C'est pas le système qu'on veut, bien évidemment, mais c'est pas si négatif que ça, ce système-là, et ça fonctionne comme un pis-aller, en fait, du système pourri qu'on a.
Alors moi, je trouve que c'est une grosse merde, ce système. Bonjour, c'est la seule femme de l'équipe qui s'exprime. Pour la simple bonne raison, alors il y a des gens hein, qui ont écrit des romans d'anticipation, des nouvelles d'anticipation sur cette question vote où on aurait des gens qui seraient sélectionnés au hasard avec un grand chapeau ou une jolie roue qui tourne. Le problème, c'est que justement, dans ces romans, ces nouvelles, en général, eh ben, il faut vite mettre les gens à l'abri. C'est-à-dire qu'il y a le tirage au sort, il faut vite les mettre à l'abri. Parce que si tu leur laisses 2 jours au contact d'autres populations, eh ben, tu sais bien qu'il va y avoir des lobbies qui vont arriver et qui vont évidemment leur manger le crâne, peut-être aussi leur proposer de l'argent, donc vient la problématique de la corruption. Donc c'est un système en fait qui est pourri à la base, parce que ça veut dire que soit on va t'enlever chez toi dans ta salle de bain en train de te laver les dents, donc pour une démocratie c'est quand même un petit peu brutal, soit ça veut dire qu'on te laisse potentiellement être confronté à d'autres personnes qui vont vouloir t'influencer, et donc par là même tu n'es plus représentatif puisqu'il y a des gens qui interviennent. La sociologie c'est un sport de combat, comme certains l'ont dit, mais c'est une pratique qui, rappelons-le, n'est pas une science, qui s'appuie sur des éléments de mathématiques et de statistiques, qui est une... moi, c'est une discipline que j'adore, mais qu'il faut savoir utiliser avec pincette, à la fois dans son utilisation première, mais aussi, évidemment, dans ses résultats, ça on le connaît bien, c'est le principe du sondage, c'est la caricature, hein, le sondage de la sociologie, il faut bien l'entendre, mais dès le départ, de toute manière, on a un problème, c'est que sélectionner les gens, c'est déjà une sélection, et après, il y a l'influence. Donc, encore une fois, une démocratie qui va enlever des gens dans la salle de bain, ça ne marche pas, donc c'est un système qui ne fonctionne pas de toute manière.
Bon, bref, on est d'accord, hein, on veut une vraie démocratie où on participe tous, une démocratie directe.
Voilà, avec mandat impératif.
Voilà, tout ça.
Et puis aussi, quand bien même, on aurait 6-7 républiques, le lundi matin, on va se réveiller comme tous les lundis matins pour aller travailler pour notre gentil patron, avec des moyens de production toujours à la main, aux mains des capitalistes. Donc bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche.
On va faire un passage de micro parce que le vert ne marche plus.
Oui. Marche pas bien.
Tu peux passer le noir.
Passe-moi ton micro.
Voilà, c'est mieux.
Merci.
Non mais les écolos. C'est pas fiable en fait. Ah ouais. Le micro vert.
Ah oui, il s'est biodégradé en fait.
C'est ah merde.
Là t'as le micro noir, donc celui de la vraie couleur de l'émission. Vas-y.
Tu peux y parfait. Aller. Et du coup, je vais vous parler un peu de, parce que bon, nous anarchistes, on critique, hein, donc on n'est pas content, on veut pas aller voter. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'on, donc on propose le fédéralisme. Je pense que vous l'avez compris, donc mandat impératif, révocable, tout ça. Mais est-ce que vraiment ça a déjà existé du coup dans l'histoire de l'humanité, ce truc-là? Donc oui, ça a déjà existé donc à différentes échelles. Donc il y a notamment des échelles à l'échelle de régions entières comme en Ukraine par exemple, où il y a eu un communisme libertaire qui s'est mis en place. Donc là aussi à base de villages autogérés, donc ils n'allaient pas voter pour un chef ou quoi, mais ils s'associaient librement entre eux, donc les paysans. Il y a aussi en Espagne, sous l'impulsion de la CNT, donc il y a un syndicat anarchiste. Et donc en gros, donc tout ça pour dire que au final, donc ces gens-là, ils n'étaient pas forcément tous anarchistes, mais il y avait une pratique qui se faisait où donc où les décisions étaient prises de manière horizontale avec un maximum de consensus, comme ça a été dit. Et donc, il y a eu cette prise de conscience que les gens pouvaient s'organiser sans chef suprême, sans grand sauveur, mais juste par quartier déjà, par commune, par village, réussir à reprendre sa vie en main, et chacun avait le droit chacun était inclus dans la prise de décision. Et donc c'était aussi dans les entreprises, grâce au syndicalisme, où il y a eu cette notion-là de on peut décider pour nous-mêmes, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise quoi faire, parce que c'est nous qui sommes les plus aptes à savoir quoi faire. Et donc actuellement il existe encore des choses comme ça, alors de manière que ce soit locale, comme des petites communautés. Alors ça s'est toujours fait depuis le début 19e, 20e siècle. Il y a toujours eu des espèces de communautés anarchistes qui sont mises en place, donc autogérées. Et ça existe encore, il y en a encore en France, même ailleurs. Donc, c'est pas forcément beaucoup d'individus, mais en tout cas, ils fonctionnent de manière autogérée avec assemblée pour prendre les décisions. Donc évidemment, ça nécessite plus de temps pour causer tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut moins travailler aussi. Donc ce mode-là, c'est aussi justement un changement de société plus profond que juste... Et c'est là aussi où le vote, ça va parfaitement pour le capitalisme. On choisit une fois tous les 5 ans et du coup, on peut continuer à travailler, à bien travailler tout le reste du temps, puisqu'on n'a pas besoin de...
Et à consommer.
Et à consommer aussi, c'est parfait pour eux. Alors que si on voulait vraiment prendre les décisions, au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais vraiment revoir nos vies en main... Et dans ce processus-là, il faudrait évidemment revoir pas mal de choses pour avoir ce temps-là. Et donc actuellement aussi au niveau international, il y a aussi au Mexique où il y a le Chiapas, qui est une région autogérée, donc qui est en dehors du contrôle étatique là-bas. Et il y a également la révolution au Rojava, où il y a tout un système donc, qui a été inspiré notamment par Murray Bookchin, un anarchiste qui était le premier à inventer l'écologie radicale, à écrire sur l'écologie radicale.
Juste rappeler que le Rojava, c'est entre la Syrie et la Turquie.
Oui, tout à fait, entre la Syrie et la Turquie.
Et plus au Mexique.
Voilà. Oui, j'ai fait...
Dans les régions kurdes.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc où là, il y a le municipalisme libertaire qui s'est mis en place dans pas mal de... dans cette région-là. Donc, y a bien des expériences qui se font sans voter et ça marche.
Et d'ailleurs, sur le Kurdistan, on peut le noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'anarchistes en fait au Kurdistan dans cette région. Ouais. Et les gens adhèrent parce que ça fonctionne, parce que ça leur redonne aussi une impression d'être utile. Et c'est impressionnant les témoignages des gens qui racontent comment ça se passe alors qu'ils ne sont pas du tout anarchistes.
Ouais, c'est ça. Dès que tu arrives à mettre une pratique comme ça en place, les gens ils voient clairement que ça fonctionne et que du coup, au final, chacun a un pouvoir sur sa vie. Au final, c'est comme en Espagne, tout le monde n'était pas anarchiste. Enfin, il y a pas besoin de. C'est juste une manière de fonctionner, à apprendre.
Moi, j'y pense sur le site Bastamag, il me semble, de mémoire, il y a quelques années. J'étais tombé sur un article c'est plus qu'un essai, il me semble que c'est toujours en cours, sur une coopérative en autogestion en Argentine, où il y avait un documentaire qui était assez intéressant, d'une vingtaine de minutes, et qui montrait un petit peu comment ça se pratiquait sur place, où on voyait que l'organisation du travail, entre guillemets, travail au quotidien était totalement différent de celle qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réunions, il devait y avoir une réunion par jour, de 1 heure ou 2 heures, où chacun s'entendait sur la manière de travailler, ce qui permettait que chaque initiative individuelle était déjà acceptée et, par tous. C'est-à-dire sans demander l'autorisation à un supérieur hiérarchique pour faire une action. Donc voilà, c'est pas des choses qui tombent du ciel. On peut retrouver des boulangeries autogérées en Turquie. J'ai vu aussi un atelier de couture qui faisait des polos, il me semble, autogérés. Donc après, voilà, ça peut parfois plus ou moins marcher. Quand ça marche pas, on sait aussi pourquoi. Il y a aussi tous les bâtons dans les roues qui sont mis par les capitalistes, par les régimes en place, parce que c'est souvent des exemples qui dérangent. Il y a aussi en France la Scopti, l'entreprise de thé 1336.
Il y a la conquête du pain aussi.
Voilà, il y a la conquête du pain à Montreuil. Bref, il y a pas
puis
mal
de choses. Il y a les aides aussi.
Il y a les aides aussi.
Moi, par contre, je voulais juste nuancer, mais sans être négatif du tout, et rappeler que l'autogestion, c'est que le premier pas vers l'anarchie. C'est pas l'anarchie n'est pas l'autogestion, parce que les gens ont tendance à un peu mélanger les deux, et que on peut très bien autogérer et faire des journées de 60 heures parce qu'on estime qu'il faut qu'on fasse de la concurrence et qu'on fasse rentrer du fric. Et donc l'anarchie, pour moi, c'est plus large. C'est ce que tu disais, Pinou, c'est une réflexion aussi sur la notion du travail et sur la notion de besoin, c'est-à-dire produire selon les besoins et pas selon et pas créer les besoins pour que les gens achètent. C'est la notion aussi d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde vaut un, et que ça, des fois, même aujourd'hui dans les scopes dont on entend parler, de plus en plus on dérive vers au départ tout le monde valait un, puis maintenant c'est tout le monde vaut un, mais finalement on élit notre patron, alors mais lui il est quand même patron, vous voyez, donc c'est une dérive qui peut arriver très vite, même dans l'autogestion. Donc il y a un besoin de repolitiser la vie et la société autour, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à se réapproprier nos vies, ce que tu disais dans l'édito, de façon en fait à réfléchir en permanence sur les problématiques qui nous concernent. C'est-à-dire que c'est pas juste le mode autogéré. On connaît des lieux autogérés où l'autorité s'applique extrêmement violemment.
Et pourtant, c'est autogéré. L'autogestion, c'est ce que les gens en font.
Exactement. Ouais. Mais c'est qu'un outil en fait.
C'est ça. Oui. Et puis nous, quand on parle d'anarchisme. L'anarchisme, c'est pas juste une manière de faire fonctionner la société. Ça va aussi au-delà de ça, quoi. C'est pas juste.
C'est plus une philosophie de vie que juste vraiment de manière basique comment on s'organise, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a sur le travail, il y a des choses importantes comme le partage de connaissances. On a toujours l'impression que une fois qu'on a fait un métier, on a mis X années d'études et que c'est réservé à ceux qui font ces X années d'études. Or, en fait, il y a beaucoup de métiers qu'on peut partager. On peut devenir électricien en quelques semaines de formation. On peut devenir cuisinier en quelques semaines de formation. Alors peut-être on sera pas le meilleur du meilleur, mais on peut faire. Et du coup, on peut apprendre des choses et partager non seulement le travail, mais la connaissance du travail, et que tout le monde fasse pas toujours le même métier tout le temps. Il y a des choses importantes là-dessus, hein, et puis du coup ça casse l'échelle du travail, hein, parce que ce qui est important, on dit toujours, voilà, dans votre boîte vous bossez, vous avez un chef qui est payé le double que vous, son chef au-dessus le triple, l'ingénieur au-dessus encore 4 fois, et en fait très vite vous pouvez, quand vous êtes dedans, vous rendez compte qu'ils font pas un métier très différent du vôtre, et que voilà, si on partageait les choses, tout le monde pourrait faire le travail de l'autre, ou presque. Alors je dis pas que tout le monde peut être chirurgien, parce qu'il y a une pratique, il y a un entraînement, c'est de la mécanique, hein, de précision, être chirurgien, donc c'est compliqué. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas, et ça ferait tourner les postes, et du coup, il y aurait plus une égalité globale, pas que des salaires, en fait, de la pratique qu'on a quand on travaille, c'est-à-dire quand on a une activité qui sert au fonctionnement de la collectivité.
Mais ce qui nécessite aussi, à l'échelle individuelle, de ne pas... de pas choper le gros melon, parce que je parle peut-être de ma position, mais j'ai pu rencontrer des gens qui finalement avaient des savoirs, etc., et qui les gardent aussi pour eux, et que finalement là on revient sur une petite position de pouvoir. Donc c'est toujours ce pouvoir qui finalement, à l'échelle individuelle comme collective, peut toujours revenir, etc.
Alors, tout à l'heure on parlait de l'autogestion comme outil, mais le vote c'est un outil. On rappellera que c'est pas parce que nous sommes autour de cette table anarchiste que nous sommes contre le vote. Tout simplement, tout à l'heure, nous avons bien dû voter pour choisir les morceaux de musique que nous avons décidé de passer dans cette émission. Alors ça s'est bien passé, je vous rassure, chers auditeurs et chères auditrices, ça a été vite emballé cette affaire. Mais c'est bien, nous parlons bien ici du vote et des élections, en l'occurrence présidentielles ou législatives qui vont suivre. Le vote fait partie de notre vie d'anarchiste, dans une organisation entre nous. Il faut bien, maman, lever la main et le faire assez simplement. Et d'ailleurs, pas forcément être obligé de le mettre dans une boîte et d'être caché, parce que aussi le vote à main levée, c'est aussi assumer une idée. Alors c'est un sujet dont on n'a pas trop débattu entre nous, mais il me semble que c'est souvent ça apparaît dans les débats associatifs. Ça a pu apparaître aussi dans cette radio. Dans laquelle nous sommes, qui est une radio autogérée. Ça veut dire quoi voter, comment on le pratique. Ce n'est qu'un outil pour notre démocratie, pour notre liberté, parce que qui dit démocratie dit bien évidemment liberté. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier ça, le vote. Oui, bien sûr qu'on le fait dans notre pratique quotidienne de militants et militantes, mais c'est bien un vote précis que nous sommes en train d'énoncer ce soir. Et je voudrais aussi faire une petite remarque, vu que je suis la femme de la soirée. Quand on a préparé l'émission, je faisais remarquer à un moment que, à mon avis, hein, mais c'est mon avis personnel, les seuls qui ont un peu lutté pour obtenir ce droit de vote, ce sont les femmes. Mmh. On a l'air d'oublier qu'à un moment, effectivement, vous les hommes, vous avez eu le droit de vote, c'est arrivé plus ou moins comme ça, avec plus ou moins de la du mouvement, mais c'est quand même un truc petit bourgeois, excusez-moi. Par contre, les femmes, on nous avait oubliées, hein, quand même dans l'affaire, ça a duré quand même très 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 longtemps, et partout dans le monde, les femmes ont dû se rebeller. Alors certes, c'était des féministes qui étaient peu nombreuses, il faut bien le dire, ce ne sont pas les femmes qui sont descendues en masse dans la rue, mais ce sont quand même les seules qui, à mon avis, ont dû lutter pour faire respecter un droit qui est censé tous et toutes nous concerner.
Bah vas-y, parce que moi j'allais dire qu'on arrivait vers la fin en fait, donc parce que du coup on a Dub Action après nous et on va quand même pas leur manger leur créneau. Ce serait pas très gentil. Donc un petit mot de conclusion ou un grand mot, mais pas trop long.
Non, bah je sais pas, on est tous d'accord. Il faut s'abstenir, enfin pas s'abstenir. Moi je suis contre avec le terme abstention. Ne participe pas au vote.
Nous, on a parlé
mieux.
De boycott plutôt, voilà. Sinon en fait. Hein.
C'est vrai.
Le mot nous plaisait davantage que effectivement l'abstention quand on a débattu avec Laurent, on parlait plutôt de boycott.
Boycottons.
Oui, boycottons, mais aussi agissons tous les jours pour arriver. À la société dans laquelle on veut.
C'est ça, parce que finalement, ça se passe pas que pour le, enfin, pas que pour le système politique. Enfin, c'est dans nos boîtes, c'est dans nos assos, dans nos collectifs, etc. Comment on fonctionne réellement. Enfin, regardons toutes et tous dans nos collectifs dans lesquels on est. Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose de social-démocrate? Est-ce qu'on se rapproche d'une démocratie plus directe, etc. Je trouve que c'est aussi ça, c'est aussi, enfin, parce qu'à un moment donné, je pense que des fois on s'enferme trop vite dans le système, c'est le système en fait. Alors je parle pas de nous forcément ce soir, hein, mais on s'enferme vite dans c'est le système. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a des actes et des actions qui sont menées à nos échelles. Elles dépendent pas du président de la République ou du Premier ministre finalement. C'est des fois dans des collectifs, il y a des comportements qui peuvent être bien tout aussi dégueulasses, je pense, avec peut-être moins de répercussions sur les finances. Mais voilà, et donc c'est aussi ça, je pense qu'il faut aussi qu'on interroge quoi.
Et moi, je voudrais citer Gaetano Manfredonia, qui disait une phrase pas magnifique. Il y a plein de trucs qu'on a le droit de faire, mais on les fait pas juste parce qu'on a peur de les faire. Donc, commençons déjà par faire ça. Voilà. Ça, je les pousse à réfléchir. C'est très, très bien.
Et on peut peut-être souligner Gaetano Manfredonia, qui avait écrit l'histoire mondiale.
L'histoire mondiale de l'anarchisme, ni Dieu ni maître, l'histoire mondiale de l'anarchisme. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi ce qui passe sur Arte.
Sur Arte, oui, voilà.
Qui est plutôt bien foutu, ouais.
Même si c'est une version raccourcie de la version originale.
Il faut le dire.
Il faut le dire.
Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir un débat. Aurions-nous été votés si nous avions été turcs
oui.
Voilà,
oui.
Sur la c'est semaine vrai. Dernière. Voilà, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le vote, c'est un outil, comme je le disais tout à l'heure. Chaque situation, chaque pays peut avoir aussi un contexte. On sait que les référendums, quand il est mal foutu, ben on ne va pas y aller parce que la question de départ, elle est pourrie, donc on ne va pas la soutenir. Mais là, ce qui s'est passé en Turquie, c'est vrai que ça amène aussi du débat et je trouve ça très intéressant de toujours aussi se remettre en question. Oui. En tant qu'anarchiste.
On notera qu'il y a eu un référendum en France il y a quelques années. Pas mal d'anarchistes, dont moi, sont allés voter. Et bizarrement, notre vote a malgré la victoire, n'a pas été écouté. C'est un autre débat. Comme quoi, finalement, la démocratie représentative,
c'est de la merde.
Elle nous manipule beaucoup quand même. Et puis quand on vote pas comme ils veulent, ils enlèvent le vote. Finalement, c'est efficace.
Facile.
Juste rappeler qu'on retrouvera le podcast de cette émission sur le blog du Canu Info du jeudi, sur le blog de La Causerie et sur le site du groupe Graines d'Anar que tu vas redonner, Pinou.
Tout à fait, grainesdanartoutattaché.org.
Voilà.
Oui, puisque vous aurez compris que Laurent de Noise Pollution est en fait une camouflage. Vous l'aurez voilà. Bien saisi.
On peut, tu peux le mettre sur Noise Pollution aussi, si tu veux.
C'est moins logique, si tu veux. On le mettra sur le Canu Info du jeudi.
Et pardon, je voulais juste aussi rajouter vite fait, parce que le Graines d'Anar, c'est aussi un groupe de la Fédéanar, c'est que de la Fédération anarchiste, pardon, c'est que la Fédération anarchiste a aussi un site qui s'appelle Ceci n'est pas la démocratie, tout attaché, hein, ceci n'est pas la démocratie.org, où vous pouvez retrouver des textes. Il y a aussi d'autres émissions qui ont été faites, alors pas sur Radio Canu spécifiquement, mais peut-être celle-ci y sera aussi. Donc voilà, il y a aussi des choses qui se font, et dans d'autres groupes anar, et dans d'autres groupes, enfin voilà, ça se fait aussi.
On se quitte en musique ?
Mais bien évidemment, et on se quitte avec René Binamé, pardon.
Eh ben oui.
Et
le triomphe de l'anarchie.
Mais oui.
La lutte jamais terminée.
C'est ça. Bonne soirée.
À bye bientôt. Bye.
Ciao. Ciao.
Tu veux bâtir les cités littérales, détruit d'abord des monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités.
attendre, gagnons le communisme. Ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme. Que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient que trop philosophé. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine. Du capital, deviens le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine. Tout est à tous et elle est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature. Et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure. Nom de valeur quand leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient que trop philosophé. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières. On rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières. L'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une balivernee. Un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne. Je ne conscris nul de vos désertés. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient que trop philosophé. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite. Et de nos mots, hâtons la guérison. Place pour tous au banquet de la vie. Notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie. Le ventre plat, l'homme peut discuter. Debout, debout, compagnons de misère. L'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire. On le devient que trop philosophé. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire.